Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au sommaire aujourd'hui, les maladies à l'échelle du monde. Et oui, rien n'échappe à la mondialisation et encore moins les virus qui voyagent d'un continent à l'autre, dans nos bronches ou dans notre sang, ou encore portés par des insectes enfermés dans des conteneurs de bateaux. Avec le réchauffement climatique, des espèces de moustiques traditionnellement absentes sous nos latitudes profitent d'un climat plus propice pour s'installer en Europe, favorisant par là même la mondialisation de leurs microbes. Mais si les virus se mondialisent, les systèmes de santé ont également pris une dimension globale, avec des soignants qui s'expatrient et des patients qui pratiquent le tourisme médical. Revue de détail de ces questions de santé à l'échelle mondiale avec Anne Sénéquier, à cheval entre l'univers thérapeutique et celui de la recherche en géopolitique.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonsoir Anne Sénéquier.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes médecin, pédopsychiatre, vous avez travaillé dans l'humanitaire pour MSF, Médecins du Monde, Action contre la faim. Et vous êtes également chercheuse et enseignante à l'Institut de Recherche en Relations Internationales IRIS, donc deux univers a priori assez éloignés l'un de l'autre. Comment est-ce que vous articulez ces deux pratiques, celle de médecin, celle de chercheuse en géopolitique ?
Finalement, pour moi, ça semble assez une ligne droite, finalement, puisque la pratique médicale me permet de garder le contact avec le patient qui est important, et la psychiatrie aujourd'hui fait office aussi de prise de température de la société, et c'est très intéressant comme ça d'avoir une vision sur à peu près toutes les thématiques de notre société et toutes les classes sociopolitiques, toutes les classes socioprofessionnelles et tous les environnements de travail, et à côté de ça aussi le côté plus macro, plus global de la santé publique et de la géopolitique en général, qui permet en fait, finalement, pour moi c'est le même sujet mais à des grossissements différents, un petit peu comme si on utilisait un microscope, une loupe ou une vision plus globale. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à travers justement ces missions MSF et autres ONG, découvert que la géopolitique c'était un peu la psychiatrie des nations, donc je retrouve des concepts et des causes-conséquences similaires dans le cabinet de psychiatrie et dans les relations internationales. Donc c'est assez intéressant.
Est-ce que vous avez un exemple ? Parce que c'est trop alléchant.
Un exemple, tout simplement, ce qui s'est passé finalement avec l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, où finalement toutes les personnes interrogées ont dit « mais on comprend pas, personne ne pensait qu'il pourrait aller envahir l'Ukraine, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel en termes de relations internationales, c'est un suicide géopolitique ». Alors c'est vrai, fondamentalement, mais lorsqu'on regarde un petit peu le discours de Monsieur Poutine et ce qu'il évoque sur ce mécontentement qu'il a eu vis-à-vis du fait d'être considéré comme une puissance régionale et d'être complètement mise à l'écart de la table des relations internationales au sens mondial du terme. Tout ça, c'est de la géopolitique de l'émotion. Mmh. Et aujourd'hui, dans ce qui s'est passé aussi le 7 octobre, tout cet élément-là, l'humanité du dirigeant est souvent oublié, et finalement on se retrouve avec des situations où on dit « ah mais quand même c'est pas logique ». Si, c'est logique, parce que ça peut être des dirigeants, ils sont humains, ils ont les émotions qui vont avec, et il faudrait peut-être un jour les prendre en considération.
Et quand vous avez en face de vous un patient, une patiente, vous y voyez donc de la géopolitique aussi dans ses yeux ?
C'est moins évident. Dans les patients, on va voir les problématiques de société qui émergent. Moi, j'ai notamment cette spécialité aussi de la pédopsychiatrie. Donc, on va voir toutes les problématiques de harcèlement qu'on voit à l'école, au travail, les phobies. Alors, la pandémie de Covid-19 qui... si on va demander à n'importe qui dans la rue, va vous dire que c'est terminé. Mmh. Tous les psychiatres et psychologues de la Terre vont vous dire qu'aujourd'hui, on est en pleine vague du post-Covid en termes d'impact psychologique.
Parce que c'est un effet retard.
Oui, c'est un effet retard et c'est assez courant en fait sur le moment de la problématique. En phase aiguë, on va gérer justement que ce soit la maladie infectieuse, que ce soit le trauma, que ce soit la guerre. Donc on va réagir ici et maintenant et à l'urgence. Et de manière générale aussi, l'humain, quand il gère l'urgence, il se met en mode survie, il tient le coup et puis il avance, il va traverser cette difficulté. Et c'est une fois que finalement ça se repose, ça sédimente, que va ressortir tout ce qui s'est passé pendant ces moments-là, de ces moments difficiles, et à l'occasion d'une difficulté supplémentaire ou à l'occasion d'un souvenir ou tout simplement parce que c'est la temporalité de la psyché, eh bien on va voir ressurgir toute cette problématique d'anxiété, de phobie, de dépression, enfin tout le cortège qui aujourd'hui véritablement englue les systèmes de santé en psychiatrie et en pédopsychiatrie en général.
Voilà. Et qui vient finalement de cette pandémie mondiale au cœur du sujet de ce soir, du rapport entre la géopolitique et la santé. Alors vous avez écrit le livre Géopolitique de la santé justement en collaboration avec Victor Pelpel, un livre où vous observez les problématiques de santé au niveau mondial, parce que donc aujourd'hui c'est l'échelon pertinent, au fond l'échelon national, l'échelon local, qui semble a priori comme ça celui auquel on pense quand on pense à la santé, on pense à nos hôpitaux, à nous français, on pense à l'hôpital qui est à côté de chez nous, à notre médecin, aux déserts médicaux par exemple. Mais selon vous, c'est aussi à l'échelle planétaire que ça se regarde.
Oui, on l'a bien vu justement pendant cette pandémie. Qu'est-ce qu'on a constaté en premier abord? Que nous n'avions pas de masque, que nous n'avons plus de paracétamol et ainsi de suite. Tout ça, pourquoi? Parce que finalement 80% des molécules que l'on utilise en Europe sont fabriquées en Inde et en Chine. Ça a été pareil aussi avec le pipi, là, tout l'habillement qu'il y avait justement pendant le Covid, la blouse, le masque, la charlotte, tout ça aussi, c'était quelque chose que nous n'avions pas, les respirateurs pareil. En fait, aujourd'hui, la santé, c'est véritablement de la haute technologie. Et du coup, au niveau national, on ne peut pas gérer, aucun pays au monde ne peut gérer de manière individuelle les besoins qu'il y a pour la santé. Ça voudrait dire tous les médicaments, tout le matériel, la formation du personnel.
Dépendant des autres.
On est interdépendant finalement. Si un pays a la prétention de vouloir avoir une souveraineté sanitaire totale, il va devoir faire des choix dans les pathologies qu'il va pouvoir traiter. Ça veut dire finalement laisser de côté tout ce qui n'est pas très très présent dans la population nationale. Et c'est vrai qu'on a des problématiques communes, hein, les maladies cardiovasculaires, métaboliques, le diabète, l'hypertension, tous ces trucs-là. Mais à partir du moment où vous n'allez plus dépasser les 5% de la population qui sont impactées par ces pathologies, vous n'aurez plus de possibilité de trouver de traitement, parce que ça coûterait trop cher pour un pays de pouvoir avoir tous les médicaments, tous les protocoles et tout le matériel pour fabriqués sur place, j'entends.
Donc les annonces de relocalisation qu'il y a eu, pour vous, c'est un petit peu de la cosmétique ou c'est important quand même ?
Non, c'est important parce que justement, on n'avait plus grand-chose fabriqué sur place. Et là, ce qui a été évoqué, c'est de relocaliser des lignes de fabrication de molécules essentielles. Donc à l'OMS, il y a toute une liste de molécules essentielles, c'est-à-dire tout le package de médicaments qui est nécessaire pour traiter la plus grande majorité des pathologies qui arrive dans chaque pays. Et c'est vrai que les antibiotiques, le doliprane pédiatrique, hein, je pense que tous les parents qui nous écoutent se souviendront que l'hiver dernier, il n'y avait plus de doliprane pédiatrique. Et ça, c'est un truc complètement dément. Donc les antibiotiques, pareil, donc tout ça, c'est ces trucs vraiment essentiels, de base, les antidouleurs de premier palier, les antibiotiques, tout ça a cette vocation de revenir sur le terrain national. Et moi j'aurais plutôt tendance à mettre cet échelon, pas forcément au niveau national, mais au niveau régional, c'est-à-dire au niveau européen. C'est vrai que l'Europe de la santé, ça n'existait pas vraiment avant la Covid-19, elle est en train d'essayer de se construire. Aujourd'hui, le nouveau programme européen pour la santé, là c'est Union Européenne for Health, et ils ont un budget qu'ils ont augmenté de 10 fois par rapport au budget précédent. Donc on va se dire, mais super, c'est génial, on fait un peu de considération. Lorsqu'on constate que c'est 0,8% du budget de l'Union européenne, on déchante un petit peu. En fait, il y a cette véritable problématique au niveau européen entre le fait de dire que la santé n'est pas des prérogatives de l'Union européenne, chaque État qui s'en occupe, mais en fait, on a bien vu qu'on avait besoin de mutualiser les efforts. Et là, ce qui serait pertinent de faire, c'est justement de mutualiser toutes les capacités et les compétences de chaque État, l'industrie chimique allemande, nos capacités en recherche, même si on n'a pas eu la capacité de sortir un vaccin pour la Covid-19, on a quand même ces capacités-là. Et ça, c'est ça qui va être intéressant, aller chercher les Néerlandais là où ils sont bons, les Français là où ils le sont, et les Italiens, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc
et
l'Europe là, doit coordonner un petit peu tout ça, oui, mais c'est vrai que...
Ça serait pertinent de le faire.
La Covid a quand même permis de créer un certain nombre de choses. Il y a par exemple une agence européenne qui a été créée pour mieux répondre aux urgences sanitaires. Il y a une stratégie pharmaceutique commune pour justement réduire un peu la dépendance de l'UE à d'autres pays. Donc ça a été un accélérateur malgré tout, Anne Sénéquier.
Oui, véritablement. Disons que ça a été un révélateur, surtout. On en discutait un petit peu avant l'émission, c'est cette santé, de manière individuelle comme de manière globale, on ne la considère que lorsqu'elle n'est plus là. Quand on a une santé, en médecine, la médecine préventive, c'est celle la plus efficace, c'est-à-dire agir sur nos comportements et nos modes de vie pour faire en sorte d'éviter l'apparition de la pathologie. C'est ce qui marche le mieux. En santé publique également. Mais en fait, on a une culture dans l'Occident de la médecine curative, c'est-à-dire qu'on va attendre que la pathologie soit là pour se dire, mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on est toujours sur une approche curative. Et là, c'est la même chose finalement. On a attendu d'être complètement submergé par une pandémie, et souvenons-nous que d'ailleurs au début on s'est dit oh ben non, nous ça va pas nous toucher, on a un super système de santé, on est complètement waterproof au truc, et on a bien vu que c'était pas le cas.
Mais vous le saviez, comme un certain nombre de professionnels de santé, qu'il y a pas de frontières pour les virus.
Il y a pas de frontières, tout simplement parce qu'en fait le virus lui ne circule pas, hein, qu'on soit bien clair, ce sont les hommes qui circulent. Donc à part si vous êtes un pays insulaire, c'est-à-dire l'Australie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, on peut mettre la Chine comme étant un État insulaire dans cette comparaison. Vous ne pouvez pas le faire. Et d'ailleurs, ce sont ces pays que j'ai incités, ce sont quasiment les seuls qui ont réussi justement à fermer leurs frontières et à pouvoir éviter justement une submersion des cas de Covid dans les deux premières années. Mais notez bien aussi qu'ils n'ont pas réussi au bout de la deuxième année, et finalement ils ont ouvert leurs frontières parce que arrivaient d'autres problématiques.
Mais alors là, ce qui m'étonne un petit peu, Anne Sénéquier, c'est que il y a des virus qui circulent, mais qui ne circulent pas mondialement. Par exemple, le H1N1, dont on avait peur qu'il arrive en Europe, on a du coup fait un certain nombre de vaccins pour s'en prémunir. Comment se fait-il que celui-ci ne soit pas arrivé vraiment jusqu'en Europe, alors que le Covid-19 a été un virus mondial? Parce qu'à l'époque, je crois que c'était 2009, les voyages étaient quand même extrêmement répandus, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais enfin presque.
Il y a plusieurs composants, c'est vraiment véritablement une recette à composants multiples. C'est un agent pathogène. Déjà, chaque agent pathogène a sa propre contagiosité, sa propre facilité à contaminer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez personnel à chaque agent pathogène. Après, il y a le contexte. Souvenons-nous que la Covid-19 a émergé donc en Chine littéralement deux semaines avant le Nouvel An chinois. Mmh. Et le Nouvel An chinois est l'événement sur Terre qui draine le plus de mobilisation. Ça fait bouger 2 milliards de personnes sur Terre, ce Nouvel An chinois. Et le Wuhan a été confiné une semaine avant ce Nouvel An chinois, et en fait, beaucoup de gens étaient déjà partis. On a effectivement ces 11 000 personnes qui sont en vol chaque seconde avant, en 2019. On a également ce facteur chance aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier événement et le premier cluster en France, c'était une réunion d'une église je me souviens plus le nom, mais dans le nord-est de la France, qui avait justement beaucoup de personnes de toute la France qui étaient venues. Le cluster, il est venu parce que justement, il y a eu une personne infectée dans ce regroupement, et ensuite tout le monde est rentré dans ces régions différentes. Donc, à chaque fois, finalement, on a pu un petit peu retrouver comme ça ces moments qui ont permis de faire en sorte que ça bouge plus vite que d'autres. Et c'est vrai que le côté pathologique aéroportée en plein hiver, avec justement aussi ce facteur chance de la temporalité en Chine, au Nouvel An chinois, fait que ça change pas mal de choses quand même.
Donc il y a la mondialisation des maladies, il y a la mondialisation de la santé aussi. C'est vrai que tous les pays se sont mis ensemble, enfin ensemble, plutôt séparément, mais en tous les cas, beaucoup de pays se sont mis à rechercher un vaccin. Est-ce que vous pensez, Anne Sénéquier, que du point de vue de la santé, la mondialisation est plutôt un danger ou plutôt une chance, finalement, quand on fait le bilan?
Est-ce qu'on peut avoir une mondialisation heureuse en santé? Pour l'instant, je dirais que c'est un peu la cacophonie. Il y aurait moyen justement de pouvoir se coordonner si on prenait conscience que malgré nos minimes différences, nous sommes tous humains et tous dans la même physiologie, la même pathologie. Oui, ça pourrait être intéressant. Ce qui a permis justement de sortir ce vaccin en moins d'une année, c'est entre autres une des actions de l'OMS qui a été dans la coordination de la recherche pour éviter justement les doublons d'études, et avancer, justement, identifier les gaps de recherche qui ont permis aussi de mobiliser des financements sur ce sujet-là en particulier. Donc, alors qu'on a dit que ça allait prendre 10 ans, on a fini par trouver un vaccin efficace comme il a pu, en moins d'une année. Ça, c'est difficile à reproduire parce que ces financements qui ont là été fléchés sur la Covid-19, eh bien, on les a enlevés d'autres choses. Les mobilisations des personnels de santé également. Et aujourd'hui, encore une fois, on a une double problématique. Un, des financements de la santé de manière générale. On a un manque très très important de ressources humaines. Et je pense qu'on s'en souvient quand, il y a quelques mois, on nous disait en France qu'on allait chercher du personnel de santé ailleurs pour pouvoir remplir nos hôpitaux qui sont vides.
Oui.
Voilà. Mais il y a aussi cette problématique de la recherche. Et la recherche publique, celle qui est censée faire de la recherche pour l'intérêt général, elle est très sous-financée aujourd'hui de manière chronique et pas seulement en Europe. Et ça veut dire que finalement, la recherche est aussi beaucoup aujourd'hui de l'apanage de la recherche privée. Et eux, ils vont chercher ce qui est bankable, hein, concrètement.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et nous sommes avec Anne Sénéquier pour parler de la mondialisation des systèmes de santé et donc des maladies aussi. Ça date pas d'hier quand même, les épidémies, les pandémies. Où est-ce qu'il faudrait remonter? On a envie de remonter à la découverte par les Européens de l'Amérique. Donc ces Européens qui arrivent avec leur virus d'Européens et qui déciment. C'est une mondialisation tragique qui décime les peuples autochtones, Anne Sénéquier.
C'est vrai, mais ça, disons que ça s'appuie sur comment s'est peuplé la Terre. Et c'est vrai que ces virus-là, on a créé notre immunité en Europe sur ces virus-là, alors que la branche qui est partie peupler les Amériques n'était plus en contact avec le continent européen et eurasiatique depuis un petit moment. C'est vrai que cette partie de l'histoire est souvent occultée et je pense que la colonisation espagnole et portugaise des Amériques a gagné beaucoup à travers cette immunité qui n'était pas prête justement à recevoir ces virus-là.
Et qui était encore plus tragique que d'autres colonisations parce que c'était des territoires qui étaient vraiment coupés pour le coup de l'Europe.
Oui, absolument. Mais voilà, il y a eu d'autres éléments, mais ça, effectivement, ça a été quelque chose de très important et c'est ce qui a décimé les populations amérindiennes. Donc il y avait quand même un facteur numérique en faveur des populations amérindiennes, sans aucun doute, même si il y avait la poudre à canon en face, ça ne suffisait pas à faire la complète différence. Et c'est vrai que ces pathologies-là, ont créé une différence. Mais même avant, en fait, en 1349, je crois que c'était la peste aussi au bord de la Méditerranée. C'est dans l'histoire, finalement, c'est cette grande peste qui a permis de faire la paix pendant 8 ans autour du bassin méditerranéen. C'est le seul moment où il y a plus de guerre du tout, parce qu'en fait, bon, de toute façon, il y avait déjà plus personne pour se battre, et qui voyait que continuer les conflits, de toute façon, exposait aussi à la grande peste. Donc, ça a été un petit peu comme cette Covid-19, un moment où on s'est mis sur pause, et on a dit, ah tiens, il faudrait peut-être regarder un petit peu ce qui se passe.
Comme quoi, la santé, c'est la seule chose qui peut calmer les ardeurs géopolitiques, alors que ça crée aussi d'autres problèmes géopolitiques.
Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cet élément commun, c'est notre humanité, c'est ce qui nous permet à un moment donné, de nous rendre compte que nous sommes tous frères et avec tous la même intention de vivre une vie sur cette terre un petit peu tranquille. Mais ça n'arrive que lorsqu'on a un gros problème, qu'on s'en rend compte que quand on a un gros problème, c'est-à-dire la Covid-19, la peste à l'époque, et même le changement climatique, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, pour lutter comme on a dû lutter contre la Covid-19 et aujourd'hui comme on doit lutter contre le changement climatique, on a besoin de coopération et de coordination. Et ça, si on n'y arrive pas, eh bien, ça ne sera pas juste un peu là-bas qu'il y aura des problèmes. C'est tout le monde. Et ça, on n'a pas encore réussi à le comprendre véritablement.
En fait, ce qu'on comprend, Anne Sénéquier, en filigrane, dans vos propos, c'est que la maladie, c'est bien souvent, et les virus, une question de vitesse. Il y a la vitesse d'adaptation ou pas d'une population à un virus qui réussit à créer son humanité. Ça n'a pas été le cas pour les Amérindiens qui n'ont pas eu le temps. D'ailleurs, combien de temps ça prend? Est-ce qu'on le sait? Combien de temps, en général, il faut pour créer une immunité?
Moi, ça peut se faire très vite. En fait, en termes de santé d'agents pathogènes, toutes les latences sont possibles. On a les virus, les bactéries, les agents pathogènes du ici et maintenant qui vont pouvoir créer des pathologies avec un temps d'incubation très court. Et on a d'autres pathologies aussi qu'on peut appeler les maladies civilisationnelles ou ce qu'on appelle plus médicalement parlant les maladies non transmissibles, qui sont des problématiques qui, elles, vont s'étaler sur 2-3 décennies, et c'est ce qui les invisibilise aussi. Donc on a effectivement, vis-à-vis des maladies infectieuses qu'on pensait d'ailleurs à tort à la fin du XXe siècle avoir vaincu avec l'arrivée de la vaccination et des antibiotiques, donc on s'est dit bonne affaire, ça a créé un petit peu cette fracture nord-sud en termes de santé, parce qu'on se disait bon, bah, les pays occidentaux n'ont plus à craindre les maladies infectieuses. C'est toute l'histoire de la médecine tropicale, puis ce qui est devenu les maladies infectieuses, et puis le VIH est venu complètement comme un jeu de quilles au milieu de tout ça, bouleverser cette certitude.
Ça a complètement remis en cause les croyances des scientifiques et des médecins.
De la même manière que là, on pensait que la Covid ne nous toucherait pas, à l'époque, on pensait que les maladies infectieuses étaient terminées. Donc oui, ce VIH, et ce qui est intéressant avec ce VIH, et qui fait le lien aussi avec la Covid-19, même si encore aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur l'origine de cette Covid-19, mais quand on regarde les premiers coronavirus, c'est-à-dire le SARS de 2003 et le MERS de 2011, il me semble, qui étaient les deux premiers coronavirus qui ont eu des épidémies régionales, en fait, ce sont tous des maladies émergentes zoonotiques, c'est-à-dire des maladies du monde animal qui ont franchi la barrière de l'espèce pour venir impacter l'être humain. Et ça, pendant toutes ces années de Covid, finalement, on n'en a jamais parlé, mais de plus en plus, ça fait 70 ans qu'on a de plus en plus de maladies zoonotiques comme ça qui viennent sur les plates-bandes de notre humanité, tout simplement parce que on vient les challenger, nous aussi, sur leur zone d'habitat avec le changement du l'utilisation des terres, la déforestation, l'élevage industriel, l'agriculture aussi industrielle qui va pousser la faune sauvage vers l'habitat humain. Et toutes ces interactions entre la faune sauvage et l'être humain va multiplier les opportunités pour ces virus, finalement, bah, on l'a vu, hein, ça mute, on a vu que ça peut être très rapide, être au bon moment, au bon endroit, pour générer justement une nouvelle version du virus qui peut impacter l'être humain.
Oui, parce que le virus du sida, apparemment était déjà circulant, oui. Y compris entre les hommes et les femmes, à la fin du 19e.
Alors, effectivement.
Et il arrive en 1980, on s'en rend compte chez nous. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une accélération incroyable, quand même, de la propagation des virus, parce que la Covid-19, je ne sais pas quand le pangolin ou la chauve-souris est impliqué exactement dans le processus, mais enfin, c'est probablement que ce n'était pas à 100 ans.
En fait, c'est vrai que les premiers, le VIH, le patient zéro, en tous les cas, pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est qu'il vient du Cameroun, du sud-est du Cameroun, qui sera arrivé au Zaïre à l'époque. Et finalement, bon, ça s'est perdu. Tout ça, on l'a su, en fait, en analysant des prises de sang qui avaient été faites tout au long du XXe siècle, justement, dans un laboratoire à Brazzaville. Pas à Brazzaville, aussi... C'est ça. Et finalement, on l'a identifié plusieurs fois au cours du XXe siècle sans que ça devienne une pandémie, de toute façon. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a le facteur opportunité, il y a l'arrivée de la déforestation en ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec la création du chemin de fer, beaucoup de gens qui travaillaient justement dans la forêt, au contact des grands singes. À un moment donné, finalement, cette opportunité, elle est là. Donc on voit que la première apparition du virus date de 1920, là où ça commence à devenir véritablement problématique, c'est 1980. Donc on a 60 ans, finalement, là le VIH a mis 60 ans dans le monde du 20e siècle pour véritablement créer son opportunité et devenir pandémique. Ce qu'on voit là avec Ebola qui date de 1976, la première fois où on l'a vu sur justement la rivière Ebola, dans ce qui était le Zaïre à l'époque, et 2014, là où on a eu cette épidémie. Donc on est déjà moins oui, important que 60 ans. Le temps de latence se réduit et j'ai envie de dire aujourd'hui finalement la Covid-19, encore une fois, sans certitude, parce qu'on ne sait toujours pas d'où ça vient, mais si on part sur l'idée de la maladie zoonotique, on l'a vu arriver fin décembre 2019, donc, et au mois de mars, on était confinés chez nous en France.
Donc c'est vraiment des maladies de la mondialisation, oui, et des transports et de l'accélération des transports. Vous avez écrit un article, Anne Sénequier, sur les enjeux sanitaires pour les armées. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. Oui. Mais en effet, les armées à la fois sont proches des zones où potentiellement ils peuvent attraper des virus et puis sont appelés aussi quand il y a des problèmes de type pandémie. Donc c'est important, oui, d'y penser.
C'est vrai, en fait, les armées aujourd'hui interviennent dans pas mal de zones de la bande tropicale de manière générale. Et c'est vrai que là, ce qui est changeant actuellement, c'est vis-à-vis du changement climatique, où toutes les maladies vectorielles, ce sont des maladies qui sont transportées par un vecteur, c'est-à-dire un moustique, un arthrope, enfin tout plein de petites choses avec des ailes et ce genre de choses que je ne détaillerai pas. Hein. Il y en a plusieurs, les puces, les tiques, les moustiques, bref, tout ça. Et tous, ça fait partie des êtres vivants. Ces êtres vivants, comme tous, autant qu'on est, apprécie d'être dans un écosystème particulier, et le changement climatique arrivant, il fait évoluer cet écosystème et va faire migrer ces conditions climatiques favorables à tel ou tel vecteur. Du coup, le moustique qui était dans le sud du pays, il va migrer un petit peu plus vers le nord, et ça, il y a besoin de le prendre en considération, que ça soit pour les populations, mais que ça soit aussi pour les intervenants sur place.
Alors, par exemple, journal d'Anne-Laure Chouin sur France Culture le 1er juillet 2023, il est question précisément de moustiques.
On la croyait cantonnée aux régions tropicales, ça n'est plus le cas. La dengue, virus transmis par les moustiques, est de plus en plus un virus dit autochtone qui se transmet en France métropolitaine. L'une des explications, Mathilde Cariou, c'est l'incroyable expansion des moustiques tigres qui transportent le virus depuis le sud de la France.
Aujourd'hui, on considère que le moustique tigre est implanté dans 67 des 96 départements métropolitains et chaque année, il remonte un petit peu sur le territoire, nous explique Sylvie Manguin, spécialiste des maladies infectieuses à l'Institut de recherche de Montpellier.
Tous les cas jusque-là se trouvaient vraiment près de l'Italie. Après, il y a une quinzaine de cas dans le Var, 9 cas dans le Gard, Haute-Garonne, etc. Et l'an dernier, il y a eu 2 cas en Corse, alors qu'il n'y en avait jamais eu jusque-là. Il y a eu même des cas en 2019 dans le département du Rhône.
Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Il faut s'en inquiéter de ces moustiques ou pas, Anne-Sénéquier ?
Oui, je suis moi-même en train d'aller acheter de la moustiquaire pour la mettre au-dessus de... Mais véritablement, en fait, ça fait 2 étés que les moustiques en Île-de-France sont présents au quotidien. Alors, le moustique tigre en particulier, qui peut transmettre la dengue. Alors, pour qu'il transmette la dengue, il faut qu'il ait piqué quelqu'un qui ait la dengue. Et du coup, ça ne vient pas, ça ne s'autogénère pas dans le moustique. Mais la problématique, c'est que à côté de ça, donc on a ces moustiques en extérieur qui ne piquent pas que le soir, comme les moustiques qu'on pouvait avoir quand on était
petit. L'impression que c'est toujours un peu pire, les
non,
choses.
Non, c'est celui-ci, il pique toute la journée. Donc, en gros, nos étés qui sont... on ne vit plus des canicules séculaires, hein. Rappelons-nous de 2030, c'est la canicule du siècle. Non, maintenant, on a plusieurs par été, soyons clairs. Du coup, les consignes pour justement les personnes vulnérables en cas de canicule, c'est leur dire allez dehors, allez sous les arbres, allez dans la fraîcheur. Mais dans la fraîcheur, en fait, il y a les moustiques tigres. Donc c'est sympa de s'enduire de trucs, mais ça marche pas spécialement. Donc en fait, la problématique du moustique, on peut dire oui, on va démoustiquer tout ça, c'est une approche verticale parce que elle s'inscrit aussi autour de toutes les autres problématiques qu'il y a autour.
C'est
et
pas
oui,
très écologique de démoustiquer, donc il faut penser c'est... également alors, aux conséquences
ce qu'il faut
de
faire,
la démoustication.
Puisqu'on en parle là, j'en profite, puisque au début du printemps, ce qu'il faut faire véritablement, c'est prendre l'habitude d'éviter les eaux stagnantes dans les jardins,
les
dans
pots de fleurs aussi,
sur les bords de fenêtres, tout ça. C'est un truc tout simple, mais en fait, comme on n'a pas l'habitude, comme ce n'est pas la culture de la prévention du moustique, ici en Île-de-France, c'est pas quelque chose auquel on pense. Donc il va falloir finalement reformater une éducation sanitaire. J'ai même envie de dire de construire une éducation sanitaire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais trop évoquées, qui est important aujourd'hui si on a envie de vivre un peu correctement et en bonne santé le plus longtemps possible. On a besoin de savoir toutes ces choses-là.
Et là, ça rejoint Anne-Sénéquier, ce que vous disiez sur le fait que la santé, c'est en réalité tout un environnement et que on ne peut pas penser uniquement paracétamol et scalpel quand on parle de santé, parce que là en l'occurrence on est vraiment dans des gestes de prévention. Vider l'eau stagnante sur les balcons, ça peut être un geste de santé.
Ça est complètement un geste de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à sortir la santé du cabinet médical du docteur, parce que oui, ça, on est dans la médecine curative, mais la médecine aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la santé, elle est partout, elle est dans l'urbanisme des villes, elle est dans le marketing que moi, je dirais pathogène. Elle est.
C'est-à-dire les publicités qui vous font consommer ce que vous ne devriez pas consommer.
Exactement, qui font consommer. Alors, au-delà qui font consommer, elles imposent une norme de la sédentarité à travers les voitures qui défilent sur vos écrans de télévision. De toute façon, aujourd'hui, c'est bien simple, hein. Vous avez des trucs sucrés et des voitures qu'on vous vend.
Mais c'est pas que c'est pour ça.
C'est un peu que ça. Donc, en gros, les voitures, on voit bien que dans les villes, c'est pas très pertinent. Ça pollue. Il faut savoir que on respire à 99% dans le monde un air pollué. J'ai regardé la semaine dernière, quand j'écrivais ce fameux article, justement, on était à 2,5 fois supérieur de la norme de l'OMS sur la qualité de l'air et des particules fines. Ces voitures, c'est pas la seule problématique, puisqu'on dit, ah, mais super, on va faire des véhicules électriques. Ça ne changera rien au fait que elles impactent énormément l'espace public, que nos enfants ne jouent plus dans les rues. Alors on va dire oui, mais c'est pas grave. Ben si, c'est grave, parce qu'en fait, ces enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils jouent pas dans la rue? Eh bien, ils sont devant un écran de jeux vidéo, ils sont en surpoids et finalement, ils deviennent petit à petit de plus en plus addicts aux jeux vidéo.
Donc en tentant de protéger nos enfants, enfants en évitant qu'ils soient dans la rue pour des raisons, par exemple, de sécurité, en réalité, on crée d'autres problèmes.
Ce que j'appelle, moi, des solutions pathogènes. Et elles sont d'autant plus invisibles qu'elles ne se... Elle ne se révèle pas là, ici, maintenant, finalement, et c'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'on appelait tout à l'heure les maladies non transmissibles, par nos comportements, par justement cette consommation d'aliments ultra transformés. Si vous en mangez un jour, c'est pas un problème, une semaine non plus, c'est pas un problème. C'est dans la répétition et la pérennité de l'action que ça devient un petit peu problématique, et le corps humain étant très bien fichu et très bien fait, très bien résilient, eh bien, il va quand même fonctionner en mode dégradé, sauf qu'à un moment donné, il ne pourra plus faire face et il va déclarer la pathologie qui arrivera, souvent 2 décennies après. Mais là, on n'est plus dans la prévention et là, on va déclencher tout la myriade des cancers, des maladies cardiovasculaires. L'OMS nous promet aujourd'hui une augmentation de 77% des cancers à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, on veut pas plus de chimio, en fait. On veut moins de produits qui rendent malades. Et ça, c'est vrai de par l'industrie, de par la chimie, de par les pesticides, les glyphosates, les trucs ultra transformés. L'autre jour, on s'est dit, bah, génial, il y a une étude sur le sucre qui est apparue, on a dit, il y a moins de composés sucrés dans les sodas, dans les boissons sucrées. Bah, c'est vrai, il y a moins de composés sucrés dans les boissons. Par contre, en termes de quantité de sucre, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de seuil. Donc, tout ça, toutes ces petites choses-là sont... alors que ce n'est pas du tout de la santé, il va falloir les considérer sous le prisme de la santé.
Non, c'est pas de la santé, mais c'est en partie de la géographie, et c'est là où vraiment ça rejoint la thématique de notre émission. Tout à l'heure, vous avez dit, il faut penser à l'urbanisme. Et c'est vrai que l'urbanisme dans le monde joue beaucoup sur la santé. Par exemple, s'il y a ou pas la possibilité de marcher, s'il y a ou pas la possibilité de faire du vélo, ça joue sur la santé.
Ça joue sur la santé somatique, parce que faire du vélo, ça vous maintient en bonne santé. Et c'est pas faire du sport. Et cette notion de faire du sport, ben on en a besoin depuis qu'on est sédentaire, en fait, qu'on n'a plus d'activité physique. Et vous évoquiez tout à l'heure la colonisation des Amériques. Mais moi, j'aime bien remonter encore plus loin, c'est-à-dire au temps où on était chasseurs-cueilleurs. On a ces 7 millions d'années qui nous précèdent, si on part des préhumains, où on avait une activité physique importante.
Vivez moins longtemps quand même que nous, les chasseurs-cueilleurs.
Alors, figurez-vous que finalement, quand on est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur, on a perdu des centimètres de taille moyenne et beaucoup d'années aussi d'espérance de vie du fait de cette promiscuité avec justement le bétail. Donc oui, il vivait peut-être pas jusqu'à 87 ans, mais malgré tout, bien plus que nos agriculteurs. Ceci étant, on est donc programmé cellulairement parlant pour avoir une activité physique importante et aussi pour être résilient aux famines régulières et répétées. Donc aujourd'hui, quand on a cette programmation génétique dans chacune de nos cellules et que on vit dans un monde où il y a un fast-food à chaque coin de rue, ça ne peut pas fonctionner. Et tout ça avec la sédentarité acquise et promue justement par la publicité pathogène.
Oui. Parmi les risques aussi en ville, il y a la pollution de l'air. Ça, c'est partout dans le monde. C'est quand même... Enfin, la situation en Europe, elle est plutôt meilleure, plutôt moins bonne qu'ailleurs.
C'est effectivement partout dans le monde où c'est monitoré déjà. C'est vrai que en Asie du Sud-Est, en Chine aussi, c'est beaucoup plus important. Mais là, il y a besoin de faire des efforts justement sur les industries, la circulation automobile. Et c'est vrai que ça grince quand on dit qu'il va falloir circuler moins dans les villes et tout ça. Mais en fait, toutes les études montrent que ça soit au niveau du commerce, que ça soit au niveau de la santé des populations, mais aussi des gens qui vivent dans cette ville, c'est pertinent de le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi une population urbaine de plus en plus importante. On se projette à plus de 60% à l'horizon 2050 de population urbaine mondiale. On a besoin, si l'humanité vit dans les villes, que ça soit un environnement non néfaste.
C'est vrai que les troubles psychiques, souvent, c'est une combinaison entre une vulnérabilité génétique, des facteurs individuels, et l'interaction avec son environnement. Et donc, évidemment, selon où l'on vit, on ne va pas être impacté de la même manière par les conditions environnementales dans lesquelles on vit et on habite. Du coup, les déterminants de la santé mentale, ils sont multifactoriels. Et les territoires, en effet, sont inégaux face à ces déterminants. Et ce qu'on observe souvent, il y a plusieurs études qui le montrent actuellement, notamment pour les troubles schizophréniques, qui sont des troubles sévères, c'est qu'on observe un lien entre ce qu'on appelle l'urbanicité et le taux de prévalence des troubles schizophréniques qui est deux fois supérieur dans les milieux urbains aux milieux ruraux, par exemple. Apparemment, il y a une sorte d'intensité liée à la taille de la ville, mais liée aussi à l'exposition à la ville. Quand on a grandi en ville, on va être plus ou moins exposé, on va dire, à ces facteurs de risque. Il y a encore des études en cours pour expliquer les mécanismes qui sont en jeu dans ce lien de causalité, mais qui sont liés en partie à des conditions socio-économiques défavorables qui peuvent être plus fréquentes en ville, un isolement social accru, une expérience de situation de discrimination ou de rejet social qui sont plus fréquentes en ville, et également des hypothèses qui sont faites sur la pollution de l'air qui pourrait impacter également la santé mentale.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'était la géographe Magali Coldefie au micro de Julie Gacon dans les enjeux internationaux en décembre 2021. Oui, il y a aussi la santé psychique. Vous êtes pédopsychiatre, vous la connaissez évidemment en particulier. Elle n'est pas impactée de la même façon partout dans le monde. La santé psychique, on n'est pas dépressif de la même façon et pour les mêmes raisons partout dans le monde. C'est assez étonnant de découvrir ça.
Disons que la symptomatologie diffère en fonction des cultures. On appelle ça l'ethnopsychiatrie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est questionné d'envoyer des psychiatres gérer le post-tremblement de terre au fin fond du Népal ou quoi que ce soit, parce que une dépression à Londres ne va pas avoir la même symptomatologie qu'une dépression dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
C'est-à-dire quelle différence ?
Disons que dans les pays occidentaux, on va être plutôt sur quelque chose de l'ordre de la perte de motivation, de quelqu'un qui va être apathique, vraiment très statique. Alors j'exagère, hein, tous les déprimés ne sont pas comme ça, mais alors que dans des pays où on est encore globalement assez dans le mode survie, c'est-à-dire qu'il faut lutter tous les jours pour pouvoir survivre, on va pas avoir des dépressions qui ressemblent à ça. Et souvent, en fait, en tant que praticien occidental, on va passer à côté de certaines choses. Donc, c'est important véritablement à chaque fois. Bon, bah, de toute façon, on est souvent soumis aux traducteurs, mais aussi d'avoir une bonne connaissance de la culture et de savoir comment se montre cette pathologie. Après, la santé mentale, bien sûr qu'elle est impactée par notre environnement. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'accumulation des cadres de contraintes qui va...
Donc la ville aussi, comme on l'entendait dans le son en
absolument.
L'occurrence, est plutôt dépressiogène que la campagne.
La ville est anxiogène.
Anxiogène.
La ville est très anxiogène parce qu'on n'a plus le temps, on court tout le temps. Il faut, et le mot d'ordre, et là-dessus se rajoute la toxicité du monde du travail. Je pense que j'ai un biais de vision des choses parce que je ne reçois que des gens qui vont pas bien. Donc j'aimerais qu'on me dise à un moment donné que le monde du travail va bien, mais ce que je vois aux infos concrètement ne m'amène pas à y le penser. Tout ça, cette ville, ce temps que vous mettez aussi, il faut savoir que si vous mettez plus de 45 minutes pour aller à votre travail, donc une heure et demie aller-retour, ça n'est pas pertinent sur le long terme. On peut se dire avec certitude qu'à un moment donné, ça aura un impact sur votre santé mentale. Donc il y a ce cadre de notre humanité où il faut qu'on arrive à manger, à dormir suffisamment, ce qui est aussi un problème en ville parce que l'obscurité n'existe plus, parce que nos écrans inhibent littéralement la sécrétion de mélatonine. Le nombre de gens qui arrivent avec une requête de dire « Docteur, je ne dors plus
». Mais ça, c'est pareil à la campagne et c'est pareil dans le périurbain.
C'est moins pour les écrans. Mais disons que ce sont des problématiques du 21e siècle, de effectivement nos usages des écrans, cette prépondérance de la lumière et cette perte de connexion justement avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, notre programmation génétique. Alors l'idée, c'est pas de revenir à être chasseur-cueilleur, hein, bien sûr, mais il va falloir aussi repartir de ce dont nous avons besoin pour vivre en bonne santé et adapter notre monde à ses besoins plutôt que d'essayer de nous impacter dans un truc qui nous rend malades. Et on le voit bien aujourd'hui avec cette première pandémie de maladies non infectieuses, ces maladies non transmissibles.
Alors, venons-en là justement, parce que vous nous avez communiqué une carte, comme c'est l'usage dans cette émission, oui. qui parle précisément de cela. Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire, Anne Sénéquier ?
Alors, cette carte, elle montre justement le pourcentage des décès totaux causés par les MNT. Alors, les MNT, c'est les maladies non transmissibles, c'est-à-dire que...
Donc, les cancers, les diabètes...
Voilà, maladies cardiovasculaires, neurologiques, pulmonaires aussi, tout ce qui n'est pas généré par ces agents pathogènes qu'on évoquait tout à l'heure, les virus, les parasites et tout ça. Et c'est vrai que jusqu'à il y a peu, on avait, encore une fois, de ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, de se dire que les maladies infectieuses n'existaient plus dans les pays du Nord et étaient grévées par ces maladies non transmissibles, le diabète, l'obésité, tout ça. Et ces maladies infectieuses étaient dévolues encore aux pays du Sud. Aujourd'hui, on a un nivellement... Qui est dommageable parce que justement ces modes de vie promus par le soft power des séries, des musiques, des clips, de l'internet et la mondialisation du commerce et des marques fait que tous ces produits pathogènes qui sont dans notre quotidien envahissent aussi les pays du Sud et qui ont du coup le double fardeau de lutter un contre les maladies infectieuses qui sont toujours présentes et de plus en plus. Et aussi avec ces maladies non transmissibles. Donc on a malgré tout quand même une amélioration.
Ce sont des maladies du capitalisme aussi
Oui, complètement, parce que finalement c'est la malbouffe, pour dire les choses clairement, les cancers. Et à côté, on a malgré tout une amélioration au niveau des maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'on a des populations aussi qui vivent plus vieilles et qui du coup ont qui ont le temps de développer ces pathologies que finalement, elle n'avait pas le temps de développer avant. Sur des territoires où on a des systèmes de santé qui sont défaillants, des personnels de santé absolument absents. C'est véritablement un gros problème.
Donc, une solution serait un système médical qui soit lui aussi mondialisé, une assurance santé universelle. C'est des idées qui émergent. Bien sûr, on est très très loin encore de cela.
Pour gérer ces maladies non transmissibles aujourd'hui, il faut aller chercher les causes. Il faut effectivement continuer les recherches sur le côté curatif et traiter les choses, travailler à la résilience et à la construction des systèmes de santé quand ils sont défaillants. Mais il y a véritablement besoin d'aller traiter les causes, c'est-à-dire cibler les produits pathogènes, les taxer, les réguler et récupérer un financement là qui est nécessaire justement pour financer ces systèmes de santé qui aujourd'hui sont
déshérences. Ça suffit pas de mettre manger bouger sur les publicités.
Non, mais ça suffit pas parce que tout simplement parce que ça donne la responsabilité hypocrite, soyons honnêtes, au consommateur. On va lui dire manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour sur un 4x3 pour un burger dont la boisson contient 64% des apports quotidiens en sucre. C'est aberrant. D'autre part, on n'a pas d'éducation sanitaire aujourd'hui pour faire le bon choix face à ce choix impossible. C'est littéralement de la maltraitance institutionnelle et de l'État de laisser ce choix aux consommateurs. Et finalement, on a aujourd'hui fait ces deux choses. On donne la responsabilité aux consommateurs et on va blâmer le consommateur parce que on va lui dire mais vas-y, bouge-toi, arrête de manger ça, arrête de boire, arrête de
prends
fumer.
Un abonnement dans une salle de sport.
Puisque tu fumes, eh bien le paquet, je te le mets à 10 € et ainsi de suite. Mais à un moment donné, comment on aide les gens finalement? On ne leur donne pas la possibilité de faire des choix véritables. Et j'étais récemment dans un bidonville d'une capitale d'Amérique centrale où j'étais véritablement étonnée de la prévalence de l'obésité. Et en fait, en visitant les supermarchés, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas la possibilité en fait de manger correctement parce que tout ce qu'ils avaient à leur disposition, c'était des sauces, c'est tout. On voyait tout le marché nord-américain qui se jette sur l'Amérique latine avec des chips, des bières, des bouteilles de coca de 3 litres. Voilà, il y avait, je pense, littéralement, sans exagérer, 5% de la surface de du supermarché qui était dévolue aux fruits et légumes, mais tout le reste, c'était de la junk food.
Problème supplémentaire, Anne Sénéquier, vous parlez bien souvent de pays où les médecins ont tendance à partir, et à partir précisément pour venir dans des pays plus riches. Exemple, ici, enfin en France, à Saint-Denis, dans ce reportage d'Arte, regard sur l'exode des médecins tunisiens en France.
Aujourd'hui, oui, on a essentiellement des médecins tunisiens. Donc on a Nizar, qui est donc un senior et qui est un des plus anciens du service. Kaoula est un médecin tunisien, elle est urgentiste en Tunisie. Ensuite, toi, t'es tunisienne aussi, Myriam. Ferdaouès est tunisienne, Sana est tunisienne. Nous avons Sabil qui est tunisienne. L'avantage des médecins tunisiens, c'est qu'ils parlent français. Et ils parlent français comme des Français. Ce qui est quand même un gros avantage. Un autre avantage, c'est encore une fois, c'est l'homogénéité de la formation. On fait pas un énorme pari quand on embauche un médecin tunisien avec un niveau de formation qui est équivalent au niveau français, en fait.
Ces médecins tunisiens qui fuient en nombre leur pays, une aubaine pour le docteur Vargon, qui peine à recruter des médecins français.
Et la médecine d'urgence, on a beaucoup de mal à recruter. Et la deuxième raison, c'est à Saint-Denis, c'est pas l'endroit le plus attractif. Donc c'est très compliqué, oui, et donc j'ai des médecins étrangers qui viennent faire aux urgences le travail que les médecins français ne veulent pas faire. Sans les médecins étrangers, l'édifice hospitalier s'effondrerait complètement.
Géographie à la carte sur France Culture, c'est ça aussi, Anne Sénéquier, la mondialisation de la santé, c'est que, comme dans d'autres domaines, maintenant, le marché du travail de la santé est mondialisé et évidemment, ça entraîne des flux.
Oui, le problème des ressources humaines en termes de santé est mondialisé littéralement.
Alors comment ça se fait? Parce que
c'est un coût de former un médecin. Et là, dans le reportage, je disais, mais sans les médecins étrangers, l'hôpital ne tiendrait pas. L'autre partie de l'hôpital, ce sont les internes. Donc en fait, il y a globalement quasiment plus de médecins titulaires dans ces hôpitaux.
Et à cause du numerus clausus?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est effectivement un numerus clausus, parce qu'on a tenté de limiter les coûts de la santé en disant on va diminuer l'offre, donc on n'aura plus de coûts. Sauf qu'on n'a pas anticipé, Dieu seul sait comment, le fait que cette génération du baby-boom allait vieillir. Aujourd'hui, on a une population majoritairement vieillissante, avec de plus en plus de maladies non transmissibles, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Et d'autre part,
donc beaucoup plus de maladies qu'il faut traiter dans la durée.
Exactement, une demande de soins beaucoup plus importante, avec un nombre de médecins beaucoup plus réduit. Aujourd'hui, moi, en tant que pédopsychiatre, je fais partie des 724 pédopsychiatres de France, dont 65% d'entre nous ont plus de 60 ans.
Oui. Il y a des départements où il n'y a pas de pédopsychiatres.
Dans 10 ans, je ne sais même pas combien on va être en France, et on est déjà submergé. Je ne vois pas ce qui va se passer dans les 10 années à venir. Franchement, je suis inquiète. Et c'est vrai partout. Mais pour former un médecin, il faut avoir des hôpitaux, des lieux de stage pour les former. Ça coûte cher, c'est du temps. La formation médicale, c'est la formation la plus longue des études. Ça met à peu près 10 ans pour former un médecin. Et finalement, après, c'est quelqu'un qui sort des études à 30 ans, qui a envie aussi d'avoir une vie et qui n'a pas envie d'aller au fin fond du pays, si c'est pas sa région d'origine. Et quand vous avez, à la sortie des facultés des pays à revenus faibles, les pays occidentaux qui viennent les draguer en leur disant « Venez chez moi, j'ai un salaire bien plus intéressant que ce que vous avez ici, et aussi une opportunité de vie pour votre conjoint, vos enfants, oui, c'est attractif. Et c'est vrai que...
Vous trouvez ça indécent à titre personnel, ou vous comprenez la démarche?
Ce qui m'a posé problème, c'est quand notre Premier ministre a dit « Nous allons chercher des médecins hors de l'Europe pour venir travailler dans nos hôpitaux. » Mais il faut savoir que malgré les problématiques que nous avons aujourd'hui, elles ne sont pas des moindres, nous sommes les régions du monde qui a le moins de problèmes avec ses personnels de santé. Il manque 8 fois plus de personnel de santé de manière générale. Donc, où est-ce qu'on va aller les prendre, ces médecins? Il faut être bien clair que si on va les prendre ailleurs, c'est-à-dire qu'on enlève le peu de médecins et de personnel de santé qu'ils ont déjà sur place.
Alors, je crois que c'est dans votre livre que vous citez cette statistique. Vous me direz si c'est ailleurs que je l'ai vu. 1200 médecins formés au Zimbabwe dans les années 90. 360 étaient encore dans le pays en 2005.
Absolument, c'est vrai. Oui, c'est dans ce livre. C'est de plus en plus. En fait, il y a deux pays, il y a les Philippines et Cuba qui ont développé une géopolitique des étudiants en médecine et des médecins et qui envoient finalement ces médecins ici et là. Et Cuba a envoyé des médecins pendant la Covid-19 en Guyane, en France, pour soutenir justement. Donc c'est leur géopolitique du panda à eux. Aujourd'hui, on a véritablement un problème parce qu'on a considéré la santé de manière générale de par le monde comme un coût et non comme un investissement.
Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. Vous diriez que c'est une évolution un petit peu récente?
Disons que ce qu'on appelle les quick wins en anglais, c'est-à-dire ces grandes avancées médicales qu'on a eues au XXe siècle avec les antibiotiques et la vaccination, où on a eu ce recul massif des maladies infectieuses, de la mortalité infantile, tout ça, a donné l'impression que le job en santé était fait. On a eu une augmentation véritablement importante de l'espérance de vie, de l'espérance de vie en bonne santé aussi. Donc on s'est dit, c'est bon, on peut investir ailleurs. Et en
l'occurrence, un sentiment en France, en tous les cas, d'être extrêmement bien protégé, oui, de ce point de vue-là, et d'avoir le meilleur ou un des meilleurs système de santé. Aujourd'hui, on ne se dit plus exactement cela.
Aujourd'hui, c'est le problème, c'est que c'est toujours vrai. Et ça, je pense qu'il faut quand même le garder en tête.
C'est pas un problème, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est un problème parce qu'on voit bien, vu de l'intérieur, qu'aujourd'hui, c'est un souci. Vous n'êtes pas sûr d'être reçu aux urgences. Vous êtes sûr, par contre, d'y attendre 8 heures quand vous y arrivez.
Mais c'est quand même mieux que dans la plupart des autres pays. C'est ça que vous nous dites.
Oui, c'est véritablement
y compris
mieux.
En Europe.
Y compris en Europe, et en tant que médecin praticien en France, je peux vous dire que je reçois moi des patients anglais qui viennent exprès, des patients africains qui viennent exprès, et j'ai aussi des patients américains qui viennent vivre en France pour le système de santé. Donc oui, c'est on a encore aujourd'hui un système de santé qui est le meilleur du monde, mais c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est pas il est le meilleur du monde, c'est qu'aujourd'hui il a besoin d'être reconstruit, il est en déshérence complète et il est absolument pas attractif, et notamment l'hospitalier doit être réinvesti véritablement.
Alors vous parliez de l'Angleterre, Anne Sénéquier, il y a eu un exemple extrêmement scandaleux dans ce pays, c'est celui de Stafford Hospital, un endroit où la surmortalité pendant quelques années a été très grande. On estime qu'entre 400 et 1200 personnes sont mortes alors qu'elles n'auraient pas dû mourir dans cet hôpital entre 2005 et 2008, en cause le fait de favoriser le management de cet hôpital par rapport au fond aux actes eux-mêmes. Est-ce que, donc ça a été un énorme scandale en Angleterre, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui, de façon mondiale finalement, tend à fonctionner de cette manière, Anne Sénéquier?
On parlait tout à l'heure du numerus clausus qui était justement cette limite imposée sur l'arrivée dans les études médicales, le fait de passer d'une direction des hôpitaux médicaux à une direction administrative a été reconnu en tous les cas par le corps médical comme une grosse problématique. Et récemment, cette cotation aux actes, c'est-à-dire que en fait l'hôpital va gagner de l'argent en fonction des actes qui seront faits avec chaque patient. Donc quand vous avez des spécialités telles que la cardiologie, où vous faites un ECG, vous faites un Holter...
Un ECG, bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais
ECG,
on imagine que c'est des actes...
C'est un électroencéphalogramme, c'est-à-dire quand on vérifie l'électricité...
Le cœur, peut-être, le battement du cœur.
Oui, oui.
Non, le cerveau.
Non, c'est bien le cœur.
C'est
la conduction électrique au sein des différentes cavités du cœur. Donc tout ça, c'est coté, ça rapporte de l'argent au service. Maintenant, quand vous avez un service comme de la gériatrie, de la psychiatrie, en fait, vous allez coter une consultation, mais une consultation, c'est minimum une demi-heure, 45 minutes. Le CG, vous l'avez vendu en 5 minutes, donc vous avez beaucoup plus d'actes. Donc finalement, votre service de cardio va rapporter beaucoup plus d'argent que votre service de psychiatrie. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir dans votre service de psychiatrie, de cardiologie, parce que c'est lui qui va vous rapporter de l'argent.
Parce que ce ne sont plus des médecins qui dirigent les hôpitaux?
Non, bien sûr que non. C'est une direction comptable. Mmh. Voilà.
Et ça, c'est mondial, encore une fois. Ça se
retrouve... En tout cas, c'est français. De manière générale, je ne suis pas sûre qu'il y a eu des médecins dans les directions des hôpitaux de par le monde, dans tous les pays. Donc oui, le côté coût versus investissement sur la santé, là, oui, c'est mondial. On a cette problématique à investir et à conceptualiser qu'un coût aujourd'hui en santé est un investissement qui sera multiplié par 3-4 dans la décennie à venir.
Merci beaucoup Anne Sénéquier pour ce large panorama. Pour aller plus loin, je rappelle qu'on peut se procurer votre livre. Il s'appelle Géopolitique de la santé et il a paru aux éditions de l'Iris en coédition avec les éditions Erol. Géographie à la carte, c'est fini pour cette semaine. Merci à l'équipe composée ce soir d'Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et Anthony Thomasson. La semaine prochaine, troisième épisode de notre petit cycle polynésien. Nous parlerons de la formation géologique des atolls et de comment les déchets nucléaires sur celui de Mururoa risquent de se retrouver un jour dans le Pacifique sous l'effet de la montée des eaux et de la recrudescence des typhons. Je vous laisse sur cette note malheureusement peu réjouissante, mais dans un instant, vous retrouvez le cours de l'histoire sur France Culture.